Ouvrir la parole dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est au chapitre 8. L'évangile de Jean est au chapitre 8. Je lis les versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant levé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » C'est là le thème et la pensée de ce matin. Va et ne pêche plus. Avant de continuer, nous allons encore une fois demander au Seigneur de nous conduire dans ce moment de réflexion devant sa parole, devant ce miroir. Père Céleste, tu as pris la peine de nous parler et de faire rédiger ce que tu as dit. Tu as aussi pris la peine de préserver cette parole jusqu'à notre jour, afin que nous puissions la lire. Dans ta grâce, tu nous as accordé le Saint-Esprit qui est en nous et qui est là pour nous aider à comprendre les paroles de Christ. Et là pour nous rappeler les paroles de Christ. Père, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est là pour notre enseignement, pour nous corriger, pour nous conduire, pour nous exhorter, nous édifier. Père Céleste, nous nous trouvons là devant ta parole. Ce n'est pas un homme qui va nous interpréter ta parole, c'est ton esprit qui va nous faire comprendre ta parole. Et puis surtout nous aider à le mettre en pratique. Seigneur, veuille nous conduire dans ce passage et afin que nous puissions faire ressortir ce que tu as pour nous ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen. Souvenez, dimanche dernier, on a vu le chapitre 7 et c'est la grande fête des tabernacles qui a duré 8 jours. Et Jésus l'a vécu assez seul, déjà à la fin du chapitre 6, donc juste avant la fête, pas mal de ses disciples l'avaient abandonné. Il n'y restait que les 12 et il leur a dit, « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Et ils ont dit, « À qui irions-nous ?» Nous avons le sentiment que Jésus était assez seul durant toute cette fête. Peut-être l'avez-vous vécu cela aussi. Parfois, vous avez assisté à une fête et vous vous sentez seul au milieu de la foule. Ou peut-être vous descendez à Paris dans le métro et finalement, vous êtes serré, mais vous êtes tout seul. Jésus a vécu cela. À tel point que la fin du chapitre 7, il nous dit que chacun retourna dans sa maison, C'était jusque-là, chaque soir, les gens avaient dormi dans des cabanes faites de branchages. Ça faisait partie de la fête, en souvenir des 40 ans sous tente. Et le début du verset 8, mais Jésus, lui, avait passé la nuit, lui, sur la montagne des Oliviers, à la belle étoile, comme on dit, seul. Il nous dit, à aucun moment, il nous dit que les disciples étaient avec lui, qu'ils l'avaient accompagné, qu'ils l'avaient soutenu. Jésus est seul. Et là, dimanche matin, hein, parce que c'est la fête, elle a terminé avec le sabbat, dimanche matin, Jésus, de bonne heure, arrive au temple, et il y a des gens du peuple qui le voient, ils s'approchent de lui, et Jésus s'assoit comme un maître, comme un enseignant, comme un docteur de la loi, il s'assoit, et puis il enseigne le peuple. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens et les scribes, eux, bien sûr, ça ne leur plaît pas, c'est rien que de le voir enseigner, ça ne leur plaît pas, parce qu'il n'est pas reconnu par eux, hein, il n'a pas reçu son diplôme de Jérusalem. Et alors, ils sont là pour distraire. Ça nous fait penser un peu à cette parabole du semeur, hein, n'est-ce pas? Où il dit que la semence a été semée le long de chemin et les oiseaux sont venus et les ont mangés. Et là, Jésus est en train des gens qui sont venus vers lui volontairement, sachant qui il était. Il était en train d'enseigner et il y a ces gens qui viennent pour perturber, pour distraire, pour qu'on n'entende pas les paroles de Jésus. Et c'est à ce moment-là que, premièrement, eh bien, ces hommes tendent un piège à Jésus. Et c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire pour tendre un piège. Ils traînent cette femme là, devant tout le monde. Ils l'humilient. Et tout ça, pas pour le bien de la femme, mais pour atteindre leurs propres objectifs. Si on veut aider quelqu'un avec un problème dans sa vie, Jésus avait enseigné un autre principe dans Matthieu 18. Il a dit, tu vas le voir lui seul et tu lui parles. Et si tu écoutes, tu as gagné ton frère et très bien, ça s'arrête là. Mais eux n'employaient pas ce principe-là. Eux viennent et ils traînent cette femme devant tout le monde sur la place du temple et dénoncent. Ils n'étaient guidés que par leurs mauvaises intentions parce qu'ils voulaient tendre le piège et le faire à tout prix, au prix de quelqu'un d'autre. Ici, il est question d'une femme surprise en adultère. Et personne ne le conteste. Jésus ne conteste pas. C'était certainement vrai qu'elle était prise en adultère. Et personne ne dit quoi que ce soit là-dessus. Mais le piège qu'ils tendent, c'est pas, ils ne sont pas là pour essayer d'amener cette femme à Jésus pour qu'il l'aide, non. Ils tendent le piège, parce que le piège consiste à ceci. C'est que, il dit, voilà, cette femme a été prise en adultère. Moïse a dit qu'il faut la lapider. Une femme qui est prise en adultère doit être lapidée, mise à mort. Ce qui est vrai. Hein, Lévitique chapitre 20, verset 10. Hein, c'était ainsi que... Si on le faisait de nos jours, il ne resterait plus grand monde. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Les deux. Là, on n'a amené qu'une seule personne. Et dans Deutéronome 22, verset 22, Deutéronome 22, verset 22, et je lis ces passages parce que je ne veux pas qu'on pense et on dit, mais ça c'est l'Ancien Testament, maintenant on est sous la grâce. Non, non, ce que Dieu a pensé à un moment, il la pense toujours. Le mariage n'a pas changé de définition. Il dit, Deutéronome 22, verset 22, « Si l'on trouve un homme accouché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » C'est une vérité, c'est toujours vrai. Le fait que Dieu ne tue pas à chaque fois, le Dieu que ne punit pas, ne veut pas dire qu'il approuve. Alors ils lui disent, la loi dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors le piège, c'est dans le sens que s'il dit, eh bien alors faites-le, tout d'un coup, eh bien il aura Rome contre lui, l'Empire romain. Parce que l'Empire romain avait retiré des Juifs le droit de mettre à mort. Vous vous souvenez, c'est pour ça que les Juifs avaient entraîné Jésus devant Pilate. Ils l'avaient emmené devant Pilate parce que il disait, nous, on n'a pas le droit de le mettre à mort. Donc, toi, mets-le à mort. Et si Jésus disait, non, il ne faut pas la mettre à mort, il ne faut pas le faire, donc, il est contre la loi. Et dans ce sens, la foule serait contre lui, parce qu'il est contre la loi de Moïse. Alors, c'est ce genre de situation, et on se sert de cette femme pour mettre Jésus dans une situation où il dit oui, il dit non, c'est pareil, il est coincé. Bon, ils avaient déjà essayé ça avant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous dit dans le passage que Jésus, quand ils ont dit cela, il s'est baissé, il n'a rien dit, il s'est baissé, puis il a commencé à écrire sur le sol. Alors eux, ils continuent à dire, mais alors, allez, parle, dis, vas-y, maître, tu veux enseigner, alors dis-nous, vas-y. Et puis ils sont en train de mettre pression sur lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus se lève et il retourne le piège contre eux. Et sa réponse est extraordinaire. Jésus, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais il retourne et dit, mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Maintenant, c'est eux qui sont embarrassés, parce que s'ils jettent des pierres, ils ont des problèmes avec Rome. Et s'ils ne jettent pas de pierres, c'est parce qu'ils ont des péchés. Eux, les gens qui sont purs et justes. Et alors là, ils sont coincés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, depuis le plus âgé jusqu'au plus récent, ils défilent à l'anglaise, comme on dit. Ils partent. Jésus a retourné la chose, et puis c'est eux qui étaient dans l'embarras. Vous savez, la sagesse n'a pas besoin de grandes explications et de grands discours. La sagesse de Jésus, il a retourné la situation et puis il se baisse et puis il continue à écrire dans la poussière. Et puis la conscience fait son œuvre, la conscience de chacun. Jésus a, jusque-là, vous savez, des fois, par l'éducation, on arrive à rééduquer sa conscience. C'est pour ça qu'on arrive à vivre dans le péché, on arrive à convaincre son cerveau pour dire, ça, c'est plus mal, ça, ce n'est pas mal, ça, c'est permis. Et puis après, on se sent bien, on arrive à vivre dans le péché et se sentir tout à fait bien. Et autour de nous, et je crains parfois même dans l'Église, on arrive à être content de la manière dont on vit, et l'état et la situation morale dans laquelle on vit. Mais quand Jésus a dit cette parole, il a éveillé la conscience, mais celle de Dieu, et la pensée de Dieu. Et eux qui se sentaient si justes jusque-là, eh bien tout d'un coup se sentent tout coupables et disparaissent. Vous savez, on a besoin de notre conscience a besoin d'être éveillée, mais selon la pensée de Dieu, et non pas ce que nous avons pu, par notre culture, avec le temps, nous avons pu rééduquer notre conscience. Peut-être vous êtes posé la question, et dites, mais Jésus écrivait sur la poussière, mais qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait pas, c'est une question qu'il faudra garder jusqu'à vous arriver au ciel. Si vous y pensez toujours, vous voulez dire, qu'est-ce que tu écrivais là? Je me suis toujours demandé, qu'est-ce que tu étais en train d'écrire? Si elle avait besoin de savoir, il l'aurait dit. Je vous propose quelque chose. C'est mon idée, hein, c'est du Steve Barnes. Mais dans Jean chapitre 17, verset 7, Deutéronome, chapitre 17, verset 7, je me demande si Jésus n'était pas en train de faire référence, peut-être, à une ou deux vérités de la loi. Deutéronome 17, et au verset 7. Il dit « La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Là, on demande à Jésus, on lui dit « Accorde, alors, est-ce qu'il faut la lapider ?» Il dit « Peut-être est-ce que Jésus était en train d'écrire sur le sol quelque chose pour leur dire « Mais c'est le témoin qui doit jeter la première pierre. » Et ensuite, les autres suivent, alors que le témoin commence. Dans Deutéronome 19, verset 16, je vais lire plutôt verset 15. Il dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. » Donc, peut-être qu'est-ce que Jésus rappelait ces deux vérités. D'abord, que les témoins commencent. Et puis, est-ce que vous avez deux ou trois témoins pour la chose? Sinon, on n'a pas le droit d'agir. Et entre ces rappels, et peut-être que s'il y avait un témoin, hein, parce que je ne sais pas si le témoin était présent, s'il n'était pas présent, impossible de lapider même si on le voulait. Et s'il était présent, peut-être il n'avait pas envie de dire dans quelles conditions il est devenu témoin. Donc, en tous les cas, vous savez, Jésus ne joue pas le jeu des hommes. Et de nos jours aussi, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas traîner Dieu à jouer nos jeux. C'est à nous de nous aligner sur sa parole. Et Dieu est juste. Et Jésus ne fait que mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça que j'aime chez Jésus. Il est simple, mais c'est si profond. Et qu'encore aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, on peut encore admirer sa sagesse. Un piège a été tendu. Mais ceux qui ont tendu le piège sont tombés eux-mêmes dedans. Hein, n'est-ce pas ce que Salomon nous rappelle? Mais Jésus se sert de cette situation pour enseigner un principe. Donc le piège est tendu, maintenant un principe est enseigné. Pendant tout ce temps que cette femme se trouve là devant Jésus, eh bien, Jésus n'adresse pas un seul mot à cette femme. Ce n'est que lorsque les accusateurs sont partis, ce n'est que lorsque la foule s'est éloignée parce qu'ils ne veulent pas être en présence d'une telle femme, lorsque Jésus se trouve seul et il peut lui parler sans que personne n'entende, c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers la femme pour lui parler. Jésus respecte son principe. Il a dit « Tu parles à la personne seule d'abord. Et tu parles avec l'intention de restaurer, de rétablir, pas de condamner. » Jésus, quand il parle comme celui qui tend la main, celui qui veut restaurer. Ce n'est pas comme, on l'a dit, comme les pharisiens qui voulaient réaliser leurs mauvaises intentions aux frais de cette pauvre dame. Peut-être coupable, mais on condamne le péché, mais on n'humilie pas les personnes qui portent l'image de Dieu. On ne doit jamais s'élever ou se valoriser en démolissant quelqu'un d'autre. Ça se fait tout autour de nous, tout le temps, mais Jésus ne le fait pas. Certains ont trouvé, des théologiens ont trouvé ce passage dans la Bible un peu gênant. Il y a certains manuscrits qui carrément enlèvent ce passage-là parce qu'ils trouvent que ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai, Jésus ne peut pas faire ça parce que ce serait. Ils comprennent ça comme si Jésus était en train d'approuver l'adultère, le péché ou de l'excuser. Mais ce chapitre n'aurait pas de sens si on enlevait ces versets. Si vous allez du verset 1 directement au verset 12, ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Jésus se tourne vers cette femme et on a le sentiment qu'elle a déjà fait son mea culpa, hein. Elle a déjà reconnu son erreur. Elle ne se justifie pas. Elle ne dit pas « mais non, ce n'est pas vrai ». Ils disent des mensonges, jamais fait ça, non, rien du tout. Elle répond aux questions de Jésus. Et n'est-ce pas le comportement que Jésus a toujours eu par rapport à ceux qui ont péché? Pensez à Zachée. Zachée, celui qui a volé, il a volé aux pauvres comme il a volé aux riches. Il a admis que 25% de tout ce qu'il avait, c'était du volé. Et il allait le distribuer. Mais quand il a dit, il a exprimé une parole qui montrait que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Je reconnais que c'était mal, mais maintenant je change de vie. À partir du moment où il a dit ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, le salut est entré dans cette maison. Et il n'a pas ni jeté de pierre, ni condamné, ni a dit, mais écoute, il faudrait que quand même tu souffres pendant quelques mois parce qu'avec tout ce que tu as fait. Non, non, il l'a pardonné. Jésus dit à la femme, écoute, puisque toi, tu règles la chose toi-même dans ton cœur, eh bien, va et ne pêche plus. N'est-ce pas ce que Jésus, l'apôtre Paul nous enseigne par rapport à la table du Seigneur? Il dit, avant de vous approcher, jugez-vous vous-même, mettez les choses en ordre dans votre cœur, puis après, il n'y a plus personne à qui doit se mêler. Parce que vous le faites, entre vous et Dieu. Quand vous êtes venu à Jésus, et vous avez dit, j'ai péché, et je te demande pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé tout de suite. On avait la joie une minute après. Parce que le pardon est là. C'est Jésus, c'est son enseignement. Et là, il le fait publiquement dans la place, sur la place du temple. Vous le regardez dans Jean chapitre 5, vous avez ce paralytique qui se trouvait depuis 36 ans au bord de la piscine là, et qui attendait de pouvoir plonger le premier dans la piscine pour être guéri. Et Jésus vient et de toute cette foule qui est là, Jésus le choisit, il va vers lui. Et c'est lui qui est guéri. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche, même si c'est un sabbat. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Et si vous regardez dans Jean chapitre 5, verset 14, il lui dit, va et ne pêche plus. Il n'est pas en train d'enseigner le fait que si on est malade, c'est parce qu'on a péché. Parfois, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai, et on ne peut pas généraliser. Mais apparemment, pour cet homme-là, il était dans son état à cause du péché. Et Jésus le guérit, et lui dit, maintenant, va et ne pêche plus. Et il n'y a aucune religion dans le monde qui fait ça, les choses de cette manière-là. Ça, c'est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. Tu reconnais ce que tu as fait. Peu importe dans quelles conditions. C'est parce que tu as été découvert ou parce que toi, tu ne pouvais plus supporter, parce que tu ne savais plus comment cacher. Peu importe pourquoi, tu t'arrêtes et tu reconnais ton péché. Peut-être tu es tombé malade, peut-être tu as fait une grosse dépression, peut-être que c'est tout... se défait autour de vous, et alors Et souvent, c'est dans ces situations-là qu'on se tourne à Dieu. Il dit, peu importe pourquoi tu es venu et dans quelle direction tu es venu, mais si tu viens à moi et tu es prêt à te détourner de ta vie passée, tu reconnais ton péché, tu te repens. Repentir, ça veut dire changer de direction. Eh bien, il dit, moi, je te dis, va et ne pêche plus. Tout simplement. Dis-moi, je ne te condamne pas non plus. Puisque tu t'es condamné, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Trop souvent, nous retenons la première partie de ce que Jésus a dit. C'est je ne te condamne pas non plus. Et on garde que ça. Et on a l'impression, à voir la vie de certains chrétiens, ou de certains de ceux qui se disent chrétiens, l'impression qu'ils ont, ils pensent que, eh bien, puisque Jésus, il aime bien pardonner, et puis que le pardon est toujours gratuit, finalement, je peux faire un peu ce que je veux, et puis après je demande pardon, et puis c'est pardonné, et puis à la fin, on va au ciel quand même. Ça, c'est pas la théologie biblique. Hein. Peut-être c'est pratiqué par beaucoup de chrétiens, mais ce n'est pas la doctrine de la Bible. Jésus a dit à la femme, « Moi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » Quand il dit « va, ne pêche plus », c'est qu'il reconnaît qu'elle a péché. Mais il dit maintenant, il y a un terme, et maintenant tu vis une autre vie. Pouvez-vous dire, « Je faisais, mais je ne fais plus. » « Je disais, mais je ne dis plus. » « Je regardais, mais je ne regarde plus. » « Je voulais, mais je ne veux plus. » Est-ce que vous pouvez dire qu'à un certain moment, ça a changé? Vous connaissez ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Et là encore, on aime bien la première partie et moins bien la deuxième partie. Mais pour employer un terme courant, c'est un package. De Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais il dit aussi, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Si les choses anciennes ne sont pas passées, on se dit, mais est-ce que c'est une nouvelle création? C'est vrai que à tout moment, on peut venir à la croix de Christ et il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. C'est vrai. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est vrai. Mais il dit, mais il y a un changement de vie. Tu vis une autre vie. Tu penses autrement. Et là, au renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Et Jésus, donc, se sert de cette situation embarrassante pour la pauvre femme, mais d'une grande consolation pour nous dire, même si tu as commis ce que les hommes considèrent comme étant le pire des péchés, pour Dieu, il n'y a pas une différence, hein. Il dit, celui qui désobéit à un seul commandement est coupable de tous. Donc dites-moi, oui, je mens, mais j'ai jamais commis l'adultère. Pareil, hein, pour Dieu. Mais il dit, bon, vous les hommes, vous avez vos idées, je travaille avec vous. Même si vous avez commis le pire des péchés, il est possible de venir et de demander pardon et je vous pardonne. Mais après, vous pouvez partir sans condamnation, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Tu ne peux plus continuer dans cette voie. Et donc, de ce passage de Jean chapitre 8, nous voulons faire ressortir une exhortation. Supposons que je prenne ce récit et que je dise que la femme adultère représente l'Église. L'Église est composée de gens qui étaient pécheurs. On peut, de chacun d'entre nous et de tous ensemble, on peut dire des choses. Et il y a certainement autour de nous des gens qui pourraient nous accuser et nous rappeler des choses. En fait, lorsque nous avons été traînés devant le Seigneur par des circonstances, par des événements, par peu importe, eh bien, n'étions-nous pas pécheurs, adultères? Et cette Église de Jésus-Christ, quand elle a été traînée devant Jésus, la première fois n'était-elle pas, on pourrait dire, une femme adultère? Mais Jésus n'a pas lapidé. Jésus a dit, mais repens-toi. Reconnais ton péché. Reconnais-le. Abandonne-le. Vous savez, on a un accusateur. Au cas où il n'y avait personne sur terre pour vous accuser, il y a quelqu'un qui est devant le trône de Dieu au ciel, dans Apocalypse chapitre 12. Il y a quelqu'un qui est là pour vous accuser en tout temps. Ce n'est pas seulement qu'il y ait quelqu'un ici sur terre, mais on a, il nous dit en Apocalypse chapitre 12 et au verset 10, il dit, « Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, il y a un accusateur, Satan sait tout sur nous. Et il est là-haut, il dit, hey, tu as vu Steve l'autre soir? Et Steve n'a rien à dire, même si personne d'autre est au courant, même si personne d'autre a vu, Satan sait, Jésus sait. Et moi, je sais. Trois témoins. Oui, l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, les versets 1 et 2, nous dit, oui, nous avons un avocat. Avocat est le mot dire, c'est paraclétos, le même que consolateur, c'est-à-dire c'est celui qui se tient près de nous. Un avocat, c'est celui qui est là près de moi, et il répond pour moi, dans mon intérêt normalement. Il dit, si quelqu'un, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc l'intention, le désir de Dieu, c'est qu'on ne pêche pas. Il dit, mes petits enfants, il parle des petits, donc ça veut dire les plus jeunes dans la foi, et les moins matures dans la foi, il dit, je vous écris mais ces choses. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je n'ai pas été baptisé encore, donc moi, ce n'est pas grave. Depuis quand? Il dit, j'ai cru, mais je ne suis pas baptisé, donc c'est moins grave que pour les autres. Ça, je ne sais pas où il a eu ça, ce n'est pas dans la Bible. Il dit, moi, je ne suis pas un responsable, je n'ai pas de responsabilité dans l'Église, tout ça, alors c'est moins grave. C'est pour les anciens, ah oui, ça, c'est grave. C'est où dans la Bible, ça? Les anciens, c'était des gens qui étaient comme les autres. Il dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, donc un acte de péché, si quelqu'un vit dans le péché, si quelqu'un commet un acte de péché, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, il est là. Et il est là pour nous défendre. C'est pour ça que Jésus, quand il a quitté la terre, il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Il dit, parce que moi, je sais l'accusateur où il va aller. On voit déjà dans l'Ancien Testament, Satan et Dieu qui discutent par rapport à Job. Il dit, donc moi, je vous quitte, et je me place, et je m'assois à la droite du Père, pour que j'entende tout ce qu'il dit. Et je vais lui dire, je suis mort pour lui. vous savez ces derniers temps combien le Saint-Père de l'Église de Rome est embarrassé par le comportement de ses enfants. C'est pas grave pour lui, mais Jésus, combien de fois il est embarrassé par le comportement de ses enfants? Et c'est beaucoup plus sérieux. Est-ce que Jésus a dit à la femme, tu peux pécher parce que je peux tout pardonner? Je suis mort sur la croix pour tous les péchés. Écoute, je sais que tu es faible. Écoute, bon, les tentations sont là. Hein, mais tu sais, je peux tout pardonner, c'est pas grave. C'est ça qu'il a dit à la femme? Il a dit, va et ne pêche plus, ne vis plus dans le péché. Change de vie. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Romains chapitre 6, versets 1 et 2. L'apôtre Paul parle aux chrétiens de Rome, hein, il ne parle pas aux inconvertis, il parle aux chrétiens. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurer, ce n'est pas glisser, fauter de temps en temps. Demeurer, ça veut dire que je le vis. Hein, il y a quelque chose, il y a un aspect du péché que je suis et je pratique. Il dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, parce que plus je suis dans le péché, plus Dieu peut pardonner. Et comme ça lui fait plaisir de pardonner, eh ben alors je lui rends service. Et il dit non, mais il n'a rien compris. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En fait, lorsque je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, eh bien, tout de suite s'établit mort à la vie passée, vie pour la vie nouvelle. C'est ça le principe. Lorsque je me baptise, je rends témoignage, mais c'est un témoignage public de ce qui s'est déjà passé dans mon cœur. Vous savez, Dieu a été assez sévère avec les enfants d'Israël. De tous les peuples, eux, ils avaient reçu le plus d'enseignements pour savoir comment se comporter. Et il avait tout fait pour leur prouver qu'il était capable de prendre soin d'eux, qu'il est le vrai Dieu. Mais combien de fois ils se sont détournés de la vérité? Et Dieu a employé le terme, il a dit, vous êtes prostitués à des dieux étrangers. Vous avez votre Bible, ouvrez, là, Hébreux chapitre 10. C'est un passage, et il est clair. Pas besoin de comprendre le grec pour le comprendre, mais c'est un passage qui n'est pas relu trop souvent. Et certaines préfèrent ne pas le toucher. Mais il est dans la Bible, et comme dirait le frère Abdenour, il dit, c'est la parole de Dieu, on passe. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Il parle au peuple d'Israël. Donc, il parle à des personnes qui ont reçu un enseignement, qui ont vu des miracles, ils ont vu Dieu intervenir en Égypte, ils ont vu intervenir tout le long de leur histoire. Et donc, il parle à des gens qui sont avertis. Il dit au verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Il dit, celui qui, une fois, est venu à la croix, il a reçu le pardon des péchés, il a été sanctifié par le sang de Christ, et maintenant, il va, il prend ça à la légère, il commet le péché, et puis il se laisse aller. Il dit, celui-là est en train de piétiner le sang de Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est comme ça que c'est marqué. Et vous dites, mais c'est sévère, là. Ben, oui, c'est l'intention, hein. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Parce que s'il n'a pas dit ce qu'il voulait dire, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait dire? Il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il nous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous dites, oh, mais Steve, alors, attends. Moi, je croyais que Christ est mort, et une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour de bon. Et là, tu me dis que, et puis surtout après, ce qu'il dit, il y a une attente terrible, le jugement, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit, mais, attends, moi, je croyais qu'on était sauvé pour de bon. Mais si, qu'on est sauvé pour de bon. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont toujours été, Dieu les a toujours considérés son peuple, mais ils sont passés par des feux, des souffrances terribles. Il n'y a aucun peuple qui voudrait passer par eux où ils sont passés. Il y a eu des épreuves, et ils ont été traités comme peu de peuples ont été traités, surtout dans le temps. Peut-être à des moments précis, il y a des peuples et des génocides et tout ça, mais ce peuple-là, mais sur le temps et toutes les fois, Dieu n'a pas été tendre avec eux. Il ne les a jamais reniés. C'est toujours son peuple. Mais oh, le feu a été sévère contre eux. L'auteur ici parle de celui qui pêche volontairement après avoir eu la connaissance de la vérité. Il nous dit qu'il tombera entre les mains du Dieu vivant. C'est une grâce. C'est une grâce de tomber entre les mains de Dieu, même s'il est en colère. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 14, David a commis une faute grave. Il a fait le recensement du peuple. Cela avait été interdit. Dieu voulait, tu n'as pas besoin de mesurer, compter ta puissance, compte sur moi. Et David a commis une faute grave. Et donc dans 2 Samuel, chapitre 24 et au verset 14, en fait, Dieu lui donne le choix. Il dit, écoute, je dois te punir, te châtier, mais je te donne le choix. Il dit, veux-tu, au verset 13, il dit, veux-tu 7 années de famine ou 3 mois de fuite devant tes ennemis, ou 3 jours de peste dans ton pays. Et Dieu lui dit, choisis. Verset 14, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Écoutez, le passage de Hébreux chapitre 10 paraît dur, mais c'est une grâce, il dit, mais vous tombez entre mes mains. Vous savez, je préfère tomber entre les mains de mon père en colère, mais qui m'aime toujours, que tomber entre les mains d'un ennemi. Un Corinthiens chapitre 5, verset 5. Dites, mais ça, c'est l'Ancien Testament. C'est pour ça que je dis 1 Corinthiens 5, verset 5. Je commence au verset 4. Il dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il dit, c'est un tel homme qui ne veut pas se repentir, ne veut pas abandonner son péché, il dit, livrez-le à Satan, que Satan fasse ce qu'il veut avec son corps, mais au moins que son âme soit sauvée. Celui qui a connu la vérité et qui délibérément se détourne pour aller suivre certaines passions anciennes, il vit dans le péché, s'expose s'expose. Dieu, dans sa grâce, ne fait pas, il fait pas le pire chaque fois. Ananias et Saphira, ils ont été frappés du premier coup. Et combien d'autres auraient dû le recevoir? Mais comprenons déjà le sentiment de Dieu par rapport à cela. C'est que pour lui, celui qui a été sauvé, c'est vrai, on marche encore dans un chemin où il y a des flaques et il y a des saletés. Et Jésus a dit, moi je vous lave les pieds tant que vous voulez. Mais le corps est propre. Et il y a des choses qui se collent à nous. Il y a des choses que nous voyons sans pouvoir. Il y a des choses qu'on entend. Il y a des réactions qui échappent. Il dit, mais ça c'est des accidents de la marche sur terre encore. Mais celui qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché, qui reste, qui sait, qui continue, alors dit, là, tu t'exposes à tomber entre les mains d'un Dieu qui peut châtier, mais surtout qui est déçu. Vous savez, cette femme, entre les mains des pharisiens et des scribes, elle n'avait pas d'avenir. Mais cette femme, quand elle s'est trouvée entre les mains de Jésus, alors là, il y avait de l'espoir. Il a dit, écoute, va et ne pêche plus. L'Église lui dit, mais moi, quand je pêche, ça me touche moi tout seul, j'assume. Et quand on est enfant de Dieu, on fait partie d'une Église, on fait la partie de l'Église de Christ. Et ça ne touche pas moi tout seul. Ce que le monde voit dans l'un des membres de l'Église, c'est l'idée qu'elle se fait de toute l'Église. Je l'ai entendu. Il y a des gens qui ne viennent pas ici. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je sais ce que fait un tel. Et donc, toute l'Église est privée de cette personne et d'une œuvre qui pourrait se faire dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel qui, lui, dit qu'il est chrétien, mais il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. On en souffre tous. Quand on est en Jésus-Christ, les gens du monde, tout ça, ça n'a rien à faire avec les gens du monde. Tout ça, c'est pour ceux qui sont à Christ. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je dis tout ça, ce n'est pas pour vous décourager. Je ne suis en train de pas vous parler des chrétiens, je suis en train de vous parler de Jésus-Christ. Et je suis en train de vous dire comment lui reçoit. Et lui, il reçoit avec amour. Vous reconnaissez, écoute, et je dis, fixez les yeux sur Jésus-Christ, il vous reçoit à bras ouverts. Si le Père a pu embrasser son fils prodigue, combien plus Jésus peut vous embrasser quand vous venez. Le Père n'avait pas peur de sentir le cochon après. Et Jésus n'a pas eu honte de sentir le péché pour nous recevoir. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous avons ouvert ta parole, sachant que c'était un miroir qui reflétait ce que nous sommes et qui nous informe qui tu es. Et Seigneur, ce matin, ce passage qui dérange certains, mais finalement c'est un beau passage. C'est un passage de consolation et d'encouragement pour le chrétien qui a vécu jusque-là dans la désobéissance. Seigneur, nous te prions d'agir dans chaque cœur et là, ce n'est pas moi qui suis capable et en position de pouvoir jeter une pierre contre quiconque parce que je fais partie de la femme qui a été prise en adultère. Seigneur, nous nous plaçons tous devant toi. Comme une femme prise dans l'adultère, nous nous asseyons devant toi et nous voulons entendre ta parole. Et tu es prêt à nous dire, puisque tu reconnais ton état, va et ne pêche plus. Seigneur, continue à agir dans le cœur de chacun. Et que ton esprit nous parle dans ces moments de silence que nous nous accordons.